L'actualité des Alpes du Sud, la campagne vaccinale passée au crible dans les Alpes de Haute-Provence par Olivier Véran.
Le ministre de la Santé sera à Manosque aujourd'hui, l'occasion notamment pour lui de répondre aux accusations du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, et peut-être sur le bureau du ministre, le dossier du Chicas. L'hôpital de Gap est en proie à une crise profonde qui menace l'activité de soins. En cause, un conflit entre deux chirurgiens orthopédistes qui remonte à 2016. Un médecin, le docteur Adjet, témoigne ce matin sur Alpe 1 de ce climat délétère qui pourrait bien laisser sur le carreau l'hôpital. Une mobilisation aura lieu aujourd'hui à Gap.
661 000 euros, c'est la somme à laquelle a été vendu le Fort Kera.
Ce joyau de Châteauvillevieille fortifié par Vauban a été vendu aux enchères hier suite à une mésentente familiale. C'est désormais une société aixoise qui la possède pour l'heure.
Les entreprises manquent de visibilité dans la crise sanitaire.
C'est le reproche que fait au gouvernement Yvon Grosso, le président du MEDEF Sud demande à l'État d'éclaircir l'horizon en accélérant la campagne vaccinale et en rallongeant les délais de remboursement quant aux prêts garantis par l'État.
Les Hautes-Alpes s'invitent dans les assiettes.
Une invitation avec un plan alimentaire territorial. Le département fait partie des 65 territoires retenus en France. Dans les cantines, des crèches, des écoles, des collèges ou des maisons de retraite, on doit mieux manger, surtout local, le tout pour permettre de soutenir les circuits courts.
Rêve d'envie pour une Embrunaise.
C'est une association qui a vu le jour au mois de mars pour soutenir Eve. Elle a 49 ans. Cette eau alpine est atteinte d'un cancer triple négatif qui s'aggrave. Son espoir, un remède en Allemagne. Mais il faut le financer. Plus de 120 000 euros sont nécessaires. Une cagnotte est lancée. Météo.
Un temps instable pour ce vendredi, frais et nuageux avec des averses devenant fréquentes, des températures fraîches. Les maxis en vallée sur les Hautes-Alpes, 6 à 10 degrés, comptés entre 7 et 11 sur les Alpes de Haute-Provence. Olivier Véran s'inquiète de la stratégie vaccinale dans les Alpes de Haute-Provence.
Département où 33 748 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus. Le ministre de la Santé sera donc en visite dans le territoire basalpin ce vendredi. Il se rendra notamment à la salle Osco Manosco à Manosque vers 15h. Si monsieur le ministre vient avec des doses supplémentaires dans ses valises, je l'accueillerai volontiers, ironise le maire de la cité Giono, Camille Galtier. Olivier Véran sera aux côtés du député Christophe Castaner. Christophe Castaner qui répondra à nos questions tout à l'heure à 8h30 dans l'émission politique d'Alpe 1. Des doses de vaccins supplémentaires dans les valises, ce sera donc à voir pour Olivier Véran. En tout cas, il pourrait bien y avoir sur le bureau du ministre de la Santé le dossier du centre hospitalier de Gap. Depuis plusieurs semaines, l'établissement est en proie à une crise sans fin. 50 agents ont été reçus par le médecin du travail, une trentaine de soignants sont en arrêt maladie, 200 interventions ont été annulées ou reportées, tout comme 500 consultations. Le climat est pesant depuis qu'un conflit entre orthopédistes, les docteurs Amami et Norot a éclaté. Il remonterait à 2016, année où un audit de performance sur le bloc opératoire a été mené. Dans ses conclusions, il établit que le docteur Amami opère deux fois moins que ses autres confrères. Puis en 2019, un rapport de l'ARS fait état d'un climat tellement lourd que les deux praticiens, je cite, « ne peuvent se croiser en bloc opératoire ». Depuis, le dossier de la cimentoplastie discale est entre les mains de la justice. C'est le docteur Amami qui a dénoncé cette pratique menée par le docteur Norot. D'abord suspendu, il a été depuis réintégré dans ses fonctions après avoir obtenu le statut de lanceur d'alerte auprès du défenseur des droits. Mais aujourd'hui, la crise gangrène l'établissement hospitalier dans tous les services. Le docteur Jérôme Adjet est chirurgien viscéral et membre du collectif pour l'avenir du Chicas.
Le docteur Amami a eu des comportements inappropriés qui sont assez bien décrits d'ailleurs dans un rapport qu'avait écrit l'Agence régionale de santé qui était venue enquêter. À la suite de ce rapport, ce docteur Amami a été suspendu jusqu'à il y a quelques jours. On avait été extrêmement soulagés par sa suspension qui avait permis d'affronter la deuxième vague du Covid, la violence de ce conflit vis-à-vis de ce médecin qui a à plusieurs reprises promis la destruction du service d'orthopédie, qui a promis qu'il s'arrêterait jamais dans cette folie destructrice. C'est très difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Le docteur Amami est passé en conseil de discipline. Juste avant le passage en conseil de discipline, il a obtenu le statut de lanceur d'alerte. C'est un statut très particulier qui donne une immunité quasi complète. C'est la raison pour laquelle, malgré tous les manquements qui avaient été constatés, le conseil de discipline n'a émis aucune sanction à son égard. Donc il a été réintégré, ce qui rend les choses insupportables à nos yeux, à la fois un sentiment d'injustice, un sentiment de peur.
Aujourd'hui, face au démantèlement du service orthopédie qui ne fonctionnerait plus qu'avec le docteur Amami et deux remplaçants, le collectif va alerter. Il demande notamment à l'Agence régionale de santé et au ministère d'Olivier Véran de trouver une solution.
On n'arrive pas à en sortir. Il y a eu multiples tentatives de conciliation qui ont toutes conduit à des échecs. Il va y avoir un effondrement de l'activité chirurgicale au CHICAS avec le départ des anesthésistes, de ces médecins orthopédistes et d'autres praticiens dont je fais partie. Ça aura des conséquences sur la crise du Covid, mais également sur l'offre de soins. Il va y avoir un effondrement de l'activité chirurgicale au CHICAS avec le départ des anesthésistes, de ces médecins orthopédistes et d'autres praticiens dont je fais partie. Ça aura des conséquences sur la crise du Covid. On voit pas le bout de ce conflit et de cette tension extrême à l'hôpital. C'est aux tutelles, au ministère de la Santé, à l'ARS de trouver des solutions.
Une mobilisation du collectif aura donc lieu aujourd'hui à 13h sur le parvis du CHICAS à Gap.
661 000 euros, c'est la somme à laquelle a été vendue Forquera.
Ce joyau de Châteauville-Vieille, édifié au XIIIe siècle, fortifié par Vauban au XVIIe, était vendu aux enchères ce jeudi. La mise à prix avait été fixée à 400 000 euros, mais le propriétaire espérait que l'adjudication soit multipliée par 5 ou 6. Pour rappel, ce château était dans la famille Marty depuis 20 ans. Elle avait décidé de s'en séparer suite à une mésentente familiale qui avait provoqué un déséquilibre financier. C'est désormais une SCI basée à Aix-en-Provence qui détient les clés de ce lieu emblématique. Pour l'heure, en effet, selon nos confrères de France 3 PACA, d'autres acheteurs peuvent faire une offre supérieure de 10% au montant adjugé pendant 10 jours. Une nouvelle vente aux enchères pourrait donc être organisée.
Dans la crise sanitaire, les entreprises naviguent à vue.
C'est le reproche d'Yvon Grosso, le président du MEDEF Sud, invité du 8.30. Hier matin, il estimait que les pertes sont là, entre 6 à 8% de chiffre d'affaires en moins dans les Alpes du Sud. Un PIB régional en recul de 10%. La pandémie a impacté les trésoreries des entreprises. Mais ces dernières n'ont pas de visibilité stable. Le PGE, le prêt garanti par l'État, qui peut être souscrit jusqu'au 30 juin, est tout bonnement une dette devant se payer dans l'année qui vient, voire les 2 ans dans certains cas, contre l'Allemagne où ces crédits sont accordés pour une durée de 10 ans. Yvon Grosso insiste donc sur 2 points pour sortir de la crise économique, vacciner et surtout donner aux entreprises une visibilité plus longue.
En France, on souffre de court-termisme, de décisions de court terme. Ce qu'il faut, accélérer la vaccination. La confiance avec le 15 mai, puisqu'il y aurait une réouverture, on aurait plutôt tendance à se dire que ça y est, on commence à sortir du tunnel. Mais le pire n'est jamais certain. Il faut garder cet espoir-là et on va repartir effectivement sur une croissance plus soutenue, même si elle est revue à la baisse. Aujourd'hui, on prévoit que 5% de croissance et 2022 devrait être une année normale. Et on devrait reconstituer les trésoreries de nos entreprises. Pour pas laisser les entreprises partir à la casse, il faut absolument avoir une vision beaucoup plus longue que 2 ans. Nous, on a 1 an, on peut renouveler une fois. On nous parle de 4 ans, de 5 ans, c'est pas assez.
Si le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé mercredi réfléchir à annuler ou étaler la dette des entreprises, Yvon Grosso se montre favorable à une approche au cas par cas car 5 à 6% des entreprises régionales étaient déjà fragilisées avant le Covid. Elles ne survivront pas même si leur dette est annulée. Le président du MEDEF Sud se dit pour un soutien au cas par cas des sociétés ayant montré un modèle stable.
Une autre annonce a été faite hier par Bercy. Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est reporté pour les hôtels, cafés, restaurants et salles de sport affectés par la crise.
Il s'agit de soutenir les trésoreries des entreprises. L'échéance déclarative et le paiement de la contribution à l'audiovisuel public due au mois d'avril sont donc reportés de 3 mois. Les entreprises relevant du secteur des hôtels de tourisme et assimilés, dont la période d'activité annuelle n'a pas excédé 9 mois en 2020, peuvent directement appliquer une minoration de 25% de leur contribution à l'audiovisuel public. Les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes, les villages de vacances, les refuges de montagne, les résidences mobiles de loisirs et les terrains aménagés sont également bénéficiaires de la mesure. La députée des Hautes-Alpes, Pascale Boyer, avait adressé plusieurs courriers et déposé des amendements allant dans ce sens.
Vers une structuration de la production agricole et alimentaire locale.
En répondant en décembre dernier à la consultation lancée par l'État pour que les collectivités s'organisent à travers un projet alimentaire territorial, le département des Hautes-Alpes joue ainsi son rôle de pilote de cette stratégie globale de l'alimentation eau alpine. Avec la collaboration de la Chambre d'agriculture et de l'Agence de développement, ce PAT, un projet alimentaire territorial, s'articule autour de 5 axes, structurer une gouvernance alimentaire, promouvoir des modes de production plus durables, renforcer le tissu économique agroalimentaire, développer les circuits courts et réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité. C'est une démarche qui se veut donc vertueuse pour le consommateur et pour le producteur, selon Jean-Marie Bernard, le président du Conseil départemental des Hautes-Alpes.
Autour de notre PAT départemental, nous voulons structurer cette problématique de producteur, de consommateur et de qualité des deux. Qualité des produits qui sont localement disponibles et puis qualité des produits qu'on peut offrir à nos consommateurs. Alors les consommateurs, ils commencent à l'école primaire, dans les cantines, ça continue dans les cantines des collèges, ça va jusqu'aussi dans les restaurants collectifs et jusque dans les EHPAD, où on a une vraie volonté d'améliorer encore la qualité des produits qui sont servis et d'utiliser les producteurs locaux. Et puis ça va être l'occasion de développer des filières de production, dans le domaine de la viande, dans le domaine des légumes, des fruits et légumes. Et c'est aussi une façon d'améliorer, encore une fois, les sources de production dans le département.
Faisant partie des 65 projets retenus par l'État, celui des Hautes-Alpes bénéficiera d'un accompagnement financier pour mettre en œuvre ce PAT à hauteur de 90 000 euros. Au total, le plan d'action de ce projet inédit au niveau départemental est estimé à 1 million d'euros sur 3 ans.
On parle de cette association Rêve d'envie pour Ève qui rêve de vie.
Association qui a vu le jour en mars pour venir en aide à cette Embrunaise de 49 ans, atteinte depuis 2010 d'un cancer du sein triple négatif. Un cancer très rare, très agressif, qui concerne environ 15% des femmes ayant un cancer du sein, mais qui ne se soigne pas en France, faute d'alternatives thérapeutiques. Si Ève bénéficie de chimiothérapie, elle n'est pas éligible à l'immunothérapie après avoir reçu 2 avis négatifs pour des essais. Mais une clinique en Allemagne propose un protocole encore expérimental qui semble avoir fait ses preuves. Il s'agit de vaccinothérapie qui n'est pas proposée en France car encore invalidée. La somme est de plus de 120 000 euros pour en bénéficier. Des fonds sont donc levés pour cette maman d'un garçon de 13 ans.
C'est une combinaison de chimiothérapie qu'on a en France avec de l'immunothérapie si je ne peux pas bénéficier de ces cliniques et puis de la vaccinothérapie, des vaccins. On ne nous promet pas la guérison, on ne nous promet pas... Mais par contre, il y a des cas qui sont en rémission totale. Pour moi, c'est très clair. Je pars. Je pars et je pars à la fin du mois de mai. Il y a aussi un facteur temps qui est là. Je suis en chimiothérapie sur GAP. Les derniers résultats, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon, le cancer continue d'avancer. Voilà, notamment au niveau du foie. Donc, je peux pas me permettre d'attendre trop longtemps parce qu'après, on n'est pas forcément dans des conditions physiques et des conditions de santé qui font qu'on puisse prendre pleinement le traitement. Donc, j'aimerais partir en forme, je le suis pour l'instant, donc je ne veux pas attendre trop longtemps aussi, parce que c'est un cancer qui va très vite, et je ne peux pas réellement attendre.
27 000 euros ont été récoltés en 72 jours sur la plateforme en ligne. Retrouvez le lien de cette cagnotte sur alpe1.com.
Et le vignoble haut alpin à l'honneur sur le petit écran.
Dans le cadre de l'émission de France 3 Chronique d'en haut, le renouveau de ce vignoble sera mis en avant sous le thème Vin des Hautes-Alpes, les sentiers de la Renaissance. Cet épisode a été tourné à l'automne dernier par le réalisateur Stéphane Stasi. Il a souhaité valoriser des viticulteurs qui favorisent de nouvelles approches de la culture de la vigne ou qui travaillent des cépages anciens. Il a notamment rencontré Laetitia Allemand du domaine allemand, Maxime et Angela Hertz installés à Saint-André-d'Embrun, mais aussi Yann de Agostini du domaine du Petit Août. Une émission à retrouver ce dimanche à 12h50 sur France 3 Rhône-Alpes, puis France 3 National le 4 mai à 10h30.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.